Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Le jeûne devient donc l'expérience d'un attachement nouveau envers le Seigneur dans l'amour et l'expression d'une communion quand l'époux semble parti ou absent. Dans ces jours, ces quelques jours de repos pour refaire nos forces, il faut quand même s'occuper de choses très pratiques. C'est le temps qu'il faut pour faire des réservations et penser à l'itinéraire qui va se poursuivre à la suite de ce séjour. Il faut prévoir les lieux où nous allons, réservation, achat de billets, et ça prend du temps, il faut réfléchir. Ensuite, ce sera encore le repos, la lecture et les prières dans la nature, comme je vous en parlais. Les repas sont des moments aussi qui donne une certaine organisation à la journée. Le repas est un compagnon du corps. Alors, quand le corps exprime, ou en tout cas suscite l'appétit, eh bien, le repas se présente comme une écoute entre le corps et l'appétit. Alors le pape est arrivé au Mexique et nous prions pour lui. Et avant d'arriver à Mexico, il fait escale à Cuba dans le but de rencontrer le patriarche de Moscou, Kirill II, qui s'y trouve. Vous savez, ça fait plus de 1000 ans qu'on est séparés avec les orthodoxes pour des questions d'Occident et d'Orient, des questions aussi de tempérament, des questions de pouvoir. On est dans cela. Les séparations, toutes les séparations, malheureusement, il y a des questions de pouvoir. Qui veut quoi? Et qui aura quoi? Et qui veut qui? Et pourquoi on veut quoi? Et pourquoi on veut qui? Alors, on est toujours dans cela. Donc, le pape François, avec le patriarche de Moscou, Kirill II, vont signer un document. C'est un événement historique d'envergure pour nos deux églises. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ce document est signé à Cuba. Vous imaginez? Qui aurait pu croire que dans l'histoire de l'humanité, l'Église catholique, avec le pape, et l'Église orthodoxe, avec le patriarche de Moscou, signerait un document à Cuba. Eh bien, c'est ce qui se passe. Je me rappelle aussi l'intervention du pape François dans le rapprochement des États-Unis de Cuba. D'ailleurs, c'est pas lui qui l'a dit, d'une certaine façon. Ce sont les deux, le président des États-Unis et celui de Cuba, le chef de Cuba, qui ont dit le rapprochement est dû en grande partie par l'Église et une intervention directe par le pape François, bien sûr préparée par les autres. Jean-Paul II est allé à Cuba. Il a rencontré Fidel Castro, rappelez-vous ces images, pour ceux et celles qui ont suivi ces événements. Alors l'Église a été très 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 présente à ces événements-là, mais de manière humble, cachée. D'ailleurs, lorsque le président Obama est allé à Cuba, il est arrivé un dimanche, sous la pluie battante. Alors, le président ne l'a pas accueilli, là. Où est-il allé? Il est allé saluer le cardinal Ortega. C'est là qu'il est allé. Tout de suite. C'est intéressant de voir ce qui s'est passé à travers cette histoire entre les États-Unis et Cuba et le rapprochement. Eh bien, si les hommes du monde ont compris quelque chose, pourquoi pas les fils de lumière chrétiens, qui peuvent aussi réchauffer leur cœur de la froidure de tant de siècles de séparation. Si on a réussi d'une certaine manière à un rapprochement, bien sûr diplomatique, avec des limites entre les États-Unis qui représentent le géant et Cuba si petit, eh bien pourquoi nous, chrétiens, il n'y aurait pas de rapprochement entre nos églises? Ce sont des réflexions qui viennent. Le soir tombe, c'est vendredi, on sent la fébrilité des gens qui arrivent au lieu où nous sommes. C'est un lieu de repos. Mais on sent là qu'il se passe quelque chose. Il y a un mouvement qui s'annonce. C'est la fin de semaine. Hein? C'est la fin de semaine. Alors les gens arrivent avec une certaine fébrilité. En tout cas, de mon côté et celui de mon collègue, la santé est un peu meilleure. L'air pur aidant. Heureusement. Je vous propose maintenant la lecture en continu du livre de Serge d'Alins, La couronne de pierre, qui nous plonge dans l'univers des persécutions des premiers chrétiens. Dès la première heure d'été, si Rome s'éveille à peine, Valérien, lui, est déjà debout. Il a bu d'un trait trois coupes d'eau fraîche, a confié sa barbe et ses cheveux au tonsor qui le coiffe depuis 20 ans, et rapidement passé un pallium sur sa tunique. Il n'apprécie guère la toge, trop longue à draper selon les règles, et refuse de la porter hors des réceptions et cérémonies officielles. Galien, vêtu de la seule tunique bordée de pourpre, écoute les nouvelles que les courriers envoyés par les proconsuls apportent chaque jour à l'empereur. Attentif à toutes, Valérien commente plus longuement celles qui lui parviennent de Gaule et de Germanie, car c'est là que s'est accompli son destin. Aux frontières, les barbares sont toujours menaçants, et les généraux auxquels Valérien doit la pourpre impériale réclament des renforts. Les satisfaire implique une énorme dépense, et le trésor est vide, ou presque. La ville et les provinces lui causent d'autres soucis. À Rome, les incendies ne se comptent plus, la peste n'est jamais complètement jugulée, les empoisonnements, les assassinats se multiplient, les routes deviennent chaque jour moins sûres et les juges pusillanimes n'osent plus condamner. Valérien n'a rien d'un aventurier. Il appartient à la vieille aristocratie romaine, il hait le crime et la débauche. Par-dessus tout, il veut préserver l'unité de l'Empire. Rome lui fait peur. Sur les 2 millions d'habitants que compte maintenant la ville, combien de Romains véritables? Qu'on appelle Martien! C'est le procurateur en chef des finances, autrement dit le ministre. Une sorte de mage venu d'Égypte que l'empereur apprécie, car il n'est jamais à court d'idées.
Fais payer les chrétiens, lui dit-il. La plupart sont riches. Tes prédécesseurs ont tenté d'extirper cette mauvaise herbe. Mais elle pousse, repousse sans cesse, que lors de ces athées, servent au moins à protéger nos frontières.
Tu n'as peut-être pas tort. Tous ceux qui régnèrent avant moi-même les plus sages les combattirent sans pitié. Mais le sang a suffisamment coulé, voici 2 ans. Le temps n'est pas venu où, à mon tour, je devrais sans doute m'occuper d'eux. Galien, mon fils, comment ferais-tu pour lever, équiper, payer une nouvelle légion? Tu ne vois pas? Martien, j'en suis sûr, va nous la prendre.
Ne touchons aujourd'hui ni aux sesterces, ni au denier qui est d'argent, dit le mage. Mais si tu leur donnes, l'aureus d'or, qui vaut 25 deniers, en vaudra toujours 25. Seulement, l'alliage sera plus subtil. Au lieu d'un 1/10 de cuivre, on en mettra 3. Ainsi, pour la même quantité d'or, tu auras bien davantage de pièces, et tu pourras lever ta légion.
Voilà qui est fort malhonnête, soupire l'empereur.
Mais bien nécessaire.
Trouée de rares lumières, la nuit tombe sur Rome. Des porteurs de torches escortant quelques litières éclairent un instant des rues noires et truffées d'embûches. Les immeubles où s'entasse la plèbe sur plusieurs étages, comme ceux où logent les esclaves, regorgent encore d'odeurs et de bruits. Absorbés dans leurs pensées, 2 hommes, venant d'une demeure proche du cirque Maxime, empruntent le clivus Delphini, derrière les thermes de Caracalla, et montent au petit Aventin. Ils ne s'arrêtent qu'une fois parvenus au campus Lanatarius, presque désert, et là, immobiles, l'oreille tendue, ils écoutent. Bientôt, le cri de la chouette se fait entendre. Rassurés, ils demeurent sur place et sont vite rejoints par un jeune garçon qui les dévisage une seconde avant de se prosterner devant le plus âgé et dire « Père, bénis-moi, bénis la demeure qui se réjouit de t'accueillir. »
« Relève-toi, enfant. Que la bénédiction de Dieu le Tout-Puissant, Père, Fils, Esprit, soit sur toi, et sur tous les tiens. »
Encore quelques pas, une sorte de sente à droite, et voici la maison de Julien. Le maître, entouré de sa femme, de ses enfants, de ses serviteurs, a mis à demeure la disposition de Lucius, depuis quelques mois évêque de Rome. 22e successeur de Pierre et de Laurent le diacre qui l'accompagne. Car l'évêque, cédant aux instances de ceux qui craignent pour lui, délaisse de plus en plus souvent sa résidence de la Casa Celimontana, où vécut jadis l'apôtre Pierre. C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.